bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
La bande originale.
Oui.
Bonjour Nagui.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va pas mieux la voix.
Manon, hein, c'est compliqué. Hein.
Cherchez-vous un appartement?
Oui.
C'est vrai?
On en est tous là.
Mais où? Dans quel coin?
Dans Paris.
Dans Paris, avec vue dégagée.
Un pied à terre, on appellera ça.
Un pied à terre. Ah voilà. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas une vraie parisienne.
Une garçonnière. On se comprend.
Voilà, une demoisellière. Donc,
on en prendra deux.
D'accord.
Une demoisellière. Mais si vous n'avez pas les mêmes horaires, prenez, faites colloque.
C'est vrai, on peut faire un tour.
Un 100 mètres carrés, éventuellement, pas grand-chose.
Très bien. Avec
deux salles de bain.
Avec un jacuzzi. Très bien. Merci les filles,
à
midi, retour de l'info, à tout à l'heure, Laetitia Gaillet. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Cadeau, vous l'a dit, Agnès Hurstel, Daniel Morin.
Bravo Agnès.
Albert Agou.
Bonjour.
Tanguy Bassureau sera là tout à l'heure. Et notre invité est monsieur Stéphane Plaza.
Bravo
Stéphane.
Bienvenue. Bonjour. Stéphane, bienvenue. Non, ce n'est pas l'animateur de télévision. Non, ce n'est
si, c'est
pas
lui.
Non, ce n'est pas le comédien au théâtre. Non, ce n'est pas le comédien au cinéma. C'est le héros. C'est assez rare quand même pour le préciser, parce que vous êtes ni l'auteur ni le dessinateur. Vous êtes le héros d'une bande dessinée.
Oui.
Oui. Comment vous la racontez?
Non, c'est dingue. Non, c'est-à-dire j'envoie l'impulsion, j'envoie l'idée, et après je laisse travailler les bons éléments.
C'est ça, ceux qui savent.
Ceux qui savent ceux qui faire.
Ça s'appelle un emploi fictif?
Ça, c'est avec Pénélope, ça c'est autre chose.
Ça s'appelle l'amour est dans le prêt.
Voilà.
Prêt immobilier, n'est-ce pas? Et non pas le prêt...
Non, c'est un hommage à ma grande copine Karine Le Marchand, parce que c'est elle qui ouvre la bande dessinée.
Qui est présente. Exactement.
Voilà.
On va en parler dans quelques instants. Dorache et Quaco sont les auteurs de cette bande dessinée publiée aux éditions Jungle, et en présence d'Albert, on va évidemment analyser un tout petit peu cet art de la bande dessinée qui est le 8e. C'est ça?
Oui, c'est ça.
On appelle ça le 8e art.
Tu réponds monsieur quand tu poses une question.
Mais d'abord, l'interro sur Cheval
Plaza. Dans ma tête.
Non, on dirait que t'avais peur que j'ai. Et pas de piège.
C'est vrai que tu fais peur des fois.
Souvent même. Pour gérer de ces nombreuses équipes, je parle d'équipes dans le domaine immobilier.
Oui, j'avais bien compris. Hein.
Quelle savante ou scientifique technique de management utilise Stéphane Plaza? Tu ne dis rien, Stéphane.
Il les frappe.
Les hugs, les bonbons, les gâteaux.
Non, il les frappe.
Mais non, une technique pour les engager.
Et
justement,
des bons coups.
Mais non. Ah, il leur fait passer un test. Il leur demande de procéder à une vente devant lui. Il lui fait le client.
Non. Il se base sur
le sourire.
Et non.
Le comportement corporel.
L'humour. Non plus. Non, c'est une science. C'est une science ou une croyance.
La calinothérapie.
L'astrologie.
L'astrologie, exactement.
Alors vous recrutez quel signe?
Non, mais ça dépend. Je regarde ce qui se passe dans mon agence et j'analyse, c'est vrai, les signes, parce qu'il y a des caractères qui sont un peu plus poussés. Et je fais passer aussi un test de 20 questions pour voir un petit peu où ça se situe. Est-ce qu'ils vont être impulsifs? Est-ce qu'ils vont être, selon les signes, est-ce qu'ils vont avoir mauvais caractère? Ouais. Est-ce qu'ils vont être de mauvaise foi? J'analyse un peu tout ça. En tout cas, ça me donne des idées.
Il faut aller loin. Il faut aller très très loin. Jusqu'au test des Marines.
Oui, c'est ça. Ça, c'est pour tous les, c'est vrai. C'est 20 questions. C'est 20 questions qui sont très très rapides.
Mais comme quoi, faites-les-nous passer.
C'est-à-dire de quelle couleur est le ciel, etc. C'est
bleu.
Voilà, par exemple.
C'est pas le but.
Le but n'est pas d'avoir une bonne réponse. Le but est de répondre très rapidement. Mais évidemment, c'est mieux d'avoir une bonne réponse que d'être con, parce que si on est con, on n'est pas engagé. Mais en tout cas, voilà. Et on sait si vous êtes pas avec le stress impulsif, si vous êtes indépendant, et ça me donne une logique. Et il y a des très bons agents immobiliers qui sont trop indépendants et qui peuvent pas rentrer dans mon réseau.
D'accord.
Donc c'est pour être en havre de paix dans ce réseau.
Ok. Et les signes du zodiaque, l'astrologie, c'est pas pareil.
L'astrologie, selon les chiffres et aussi le signe.
Vous pouvez pas dire dans une agence, il faut forcément qu'il y ait un cancer, un taureau, un scorpion.
Non, je ne dis rien, mais forcément sur un CV, j'ai quand même la date de naissance. Donc sur cette date de naissance, oui, ça dépend pourquoi. Mais le scorpion est très déterminé.
Voilà.
Mais ça dépend de l'horaire de naissance et tout, non? Comment on peut savoir?
Mais non, ça c'est l'ascendant
qui vient après.
Ça, c'est
moins important ?
C'est moins.
Après 30 ans.
Après 30 ans.
Voilà. Après 30 ans.
Je prends que des jeunes.
Ok.
L'ascendant, c'est pour devenir cadre.
Et ça veut, non, mais ça veut donc dire que vous êtes influencé, pardon, mais c'est quand même le résultat, au moment de l'emploi.
Moi, je ne suis pas influencé parce que ce n'est pas moi qui fais passer les entretiens d'embauche. En fait, après ces tests-là, moi, je regarde et selon. Avec, j'ai un entretien avec mon manager donc, général et donc on discute et je lui demande si vraiment il a ressenti ça ou pas. Parce qu'on vous annonce des chiffres qui sont très bien. Pour être agent immobilier, il faut quand même faire du chiffre parce qu'ils sont souvent agents commerciaux. Et pour faire tourner la boutique, il faut quand même un minimum de chiffres. Et le chiffre, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus parce qu'on peut progresser, on peut être performant ou on peut être très bon et d'un seul coup très mauvais parce que rien peut. Je ne vais pas appeler les autres agences pour savoir s'ils font du chiffre.
Oui, vous pouvez me balancer le test des marines, là, je voudrais faire passer à l'équipe.
Ouais, avec plaisir.
Je suis assez curieux de voir les.
Bon, je vais vous le passer.
Des Marines. Des Marines.
Si, je vais le passer.
Non, s'il vous plaît.
Si, je vais le passer.
Et vous êtes Gémeaux, hein, si jamais.
Gémeaux ascendant Verseau.
Si on pose la question. Voilà. Lors d'une analyse de son ADN, Stéphane Plaza s'est aperçu qu'il avait des origines communes dans son arbre généalogique avec.
Les Bogdanov.
L'Asie.
Non,
merci. Ah, avec une personne.
Patrick Balkany.
Non, ça serait dangereux.
Émile Louis.
Non,
je n'aurais pas dit.
Avec un.
Il faut remonter loin.
Docteur Petiot.
Charlemagne.
Moins loin.
Ouais.
Louis XVI.
Exactement. Louis XVI.
C'est dans le regard. C'est dans le regard. Il y a quelque chose.
C'est dans la tête qui va rouler. Louis XVI.
Oui, alors c'est pas moi qui l'ai demandé. En fait, c'est M6 qui avait fait une émission et donc ils ont calculé ça. Et donc ils m'ont pas augmenté pourtant. Ils m'ont pas donné non plus. Ils m'ont pas donné le royaume d'M6. Mais en tout cas, il paraît qu'il y a de l'ADN dedans.
Dans votre généographie, c'est ça? Ils sont allés chercher dans vos gènes et remonter jusqu'à Marie-Antoinette et Louis XVI.
Oui, j'avais les deux. Alors j'espère que je ne vais pas finir comme Marie-Antoinette. Oui. Hein, mais
comment ça, Marie-Antoinette et Louis XVI, vous aviez les deux ascendants?
Vous savez, on a...
C'est très bizarre.
Mais non, c'est les descendants.
Tu sais, c'est les descendants. Il y en a plusieurs. Ça descend, ça descend.
Oui. Pas, mais alors du côté de votre mère ou de votre père?
De côté de ma mère.
D'accord.
Voilà.
Pourquoi Stéphane Plaza n'a pas pu être pompier alors qu'il le souhaitait?
Pyromane.
Il est trop petit. Il ne savait pas faire la planche. Il n'arrivait pas pour la planche.
Regard de feu.
Il a peur physique, du feu.
Le daltonien, les yeux, il prend le bleu pour le
Louis,
rouge.
Il a un problème physique.
Oui.
Il a un pied plus court que l'autre.
Attention quand même. Hein.
Bah, c'est la taille.
Il est ambidextre.
Les épaules ou les.
C'est pas la taille qui compte, Agnès. Non.
Il est ambidextre.
Le feu le fait vomir.
Non, mais.
Le feu lui fait peur.
Quelque chose le rend malade.
Il a de l'eczéma.
La course.
La fumée,
les poumons.
Il est allergique à l'eau.
Le matériel qu'on porte sur lui, le cuir.
Il est allergique au latex.
Les pompiers.
À grimper, il a le vertige. C'est une belle tentative, Agnès, mais c'est non.
J'adore. Il y avait un léger décalage de 2 secondes. Tu aurais été à Los Angeles, on aurait dit ok, on accorde la bonne réponse. Mais voilà, mais pas ici. Le vertige, ce qui, même dans le monde de l'immobilier, quand vous faites des visites sur des, je sais pas, sur des appartements sur le toit, ça doit être gênant.
Oui, c'est un peu gênant. J'envoie les autres visiter les toits. Moi, je visite les caves, les rez-de-chaussée. Non, j'ai le vertige quand je m'approche très, très, très près, ou même dans les hôtels là où on voit vraiment les choses. Oui, je me sens
c'est
pas rassuré.
C'est quoi les hôtels où on voit les choses? C'est
quoi les grandes terrasses tout là-haut.
Ah, les baies vitrées.
Les baies vitrées. Je cherche.
Il vous manque de vocabulaire pour un agent immobilier. Faites attention, baies vitrées,
c'est quand même dommage.
C'est le matin.
Ça, c'est typique des Gémeaux, ça.
Ouais, les Gémeaux sont en l'air, tu sais, c'est des signes en haut.
Est-ce que ça se soigne, ça, le vertige?
Je crois pas. On maîtrise.
L'oreille interne.
Ah, peut-être. Ouais, en tout cas, j'essaie de maîtriser la peur, mais bon, ça va quand même. Hein. Je peux visiter du moment que je ne joue pas près de la baie vitrée.
À propos de jeu, justement, au théâtre, qu'a fait Stéphane Plaza sur scène pour la dernière représentation du Fusible?
Non, il avait fait quelque chose à son partenaire pour le déstabiliser, c'est bien ça?
Arnaud Gidon.
Il a vendu le théâtre.
Il lui a mis du vrai alcool dans les accessoires.
C'était encore pire que ça. Par rapport à une scène de nu ou un truc comme ça, il n'y avait pas ça?
Exactement.
Il a enlevé les habits?
Vous êtes mis totalement nu.
Oui, mais il voulait voir mon corps depuis longtemps.
Non.
Et je me suis dit, bon.
Allez, est-ce que il voulait le voir ou vous vouliez le montrer?
Peut-être les deux. Sans doute que je voulais lui montrer. Mais en tout cas, oui, ils étaient un peu tristes pour la dernière et tout ça. Donc je me suis dit, il faut un truc complètement fou. Parce que les dernières, c'est souvent un peu dur quand ça a bien marché. Donc le truc complètement fou, j'ai été peut-être un peu trop loin. Je suis arrivé tout nu.
Dès le début.
Sur scène. Non, à la fin quand même. À la fin. Oui, sur scène, devant le téléspectateur
ouais,
aussi. Eh ben, ils ont été contents aussi.
Vous appelez ça un téléspectateur dans le.
Oui, ou un spectateur.
Une déformation.
Ouais, c'est une déformation, mais en tout cas, ils étaient très contents.
Non, mais ça va pas. Ah,
si, si, ils m'en redemandaient. Ils me disaient une autre. Une,
ah oui, donc... pas celle-là. Oui.
Fais plus grand, fais plus grand.
Belle pièce.
Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Mon clavatrice. Qu'est-ce qui risque.
Poésie, bonjour.
Qu'est-ce qui risque, qu'est-ce qui risque d'arriver à Stéphane Plaza en 2019?
Il va devenir papa?
Non.
La bah, lune.
Je sais pas. Pourquoi pas?
C'est une proposition?
Non, bah, nouvelle émission.
On va discuter. 2019.
C'est pas professionnel.
Il va être cambriolé.
Un alignement bah, oh, des non. planètes.
C'est lié à l'âge.
Alors, c'est lié,
il va changer de carrière.
C'est lié à Mercure.
C'est lié à une prévision. C'est lié à une prévision.
Il va prendre sa retraite.
Une sorte cheveux. De.
Il va devenir tout millionnaire. Arrêter pour devenir non. juste comédien, reprendre alors, que la scène.
C'est une sorte de retraite, c'est une sorte d'arrêter.
Il va quitter Paris,
il va devenir prêtre.
Végétarien.
Non.
Il va plus porter d'habits, jamais.
Alors, ça, oui, j'aimerais bien.
En oui. effet, il aura plus besoin de vêtements.
Il va s'installer au bord de la mer.
Il non. fera vœu de chasteté.
Ah non. Non, 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 non,
regarde ses yeux. Regarde ses yeux.
Alors, il est fort.
C'est une prédiction. C'est une prédiction qu'on lui a
oui.
faite.
Ouais, mais alors.
2019. Non, mais je lui dis, c'est un peu, c'est une manière de s'arrêter. Plus besoin de vêtements.
Un truc joyeux ou triste?
Triste.
Il va mourir.
Exactement.
Mais non.
Mais c'est horrible.
Oui, bah merci de me le redire. Non, mais c'est une voyante qui devait pas connaître son métier, mais qui m'avait prédit un jour.
Bah t'en sais rien, on n'est pas encore 2019.
C'est vrai que j'ai pas 49 ans. Elle m'a dit, à 49 ans, vous allez casser votre pipe, monsieur Plaza. Alors je pense qu'elle voulait dire, enfin c'est comme ça que je me rassure moi, hein, que j'allais changer de métier, changer de vie.
Alors d'après une voyante, je suis mort depuis mes 35 ans.
Ah, ça, alors ça me fait plaisir. Enfin non, pas que... Enfin, ça me rassure moi-même.
Je me disais que dans pareil. Le studio, ça sentait fort.
Ça. Non, mais c'est quand même bizarre.
Mais d'après ce que l'on me dit, c'est voyantes qui prédisent les décès. D'abord, c'est pas conforme à la législation des voyantes.
Oui, alors je ne savais pas qu'il y avait une
conformité. Faut pas se fier. Non, mais voilà.
Elles doivent fidéliser leur clientèle, normalement.
C'est pas crédible. C'est
pas conforme à l'escroquerie, ce qui est la voyance.
Est-ce que ça vous a fait peur quand elle vous a dit ça?
Bah, bien sûr. Non, ça fait flipper quand on.
Donc vous y croyez, en fait.
Moi, j'y crois. D'ailleurs, je ne consulte plus maintenant. Hein, maintenant,
tellement vous y croyez.
Oui, je me dis, bon, bah, ça suffit, les conneries.
Mais non, faut aller voir quelqu'un d'autre, faut
monter
en selle.
Faut aller voir un toubib, s'il y a quelque chose.
Ouais. Non, non, tout va bien, parce que j'ai des tests. Non, mais je pense que c'est un changement de vie, c'est un autre karma qui va se.
Non, moi, je pense que vous allez mourir. Et qui...
Bon, bah, alors, je vais faire mon testament, je vais sortir direct et aller chez les notaires.
Et qui pourrait être quoi, alors, ce nouveau karma, ce changement de vie, ça pourrait être quoi?
Comédien.
Bah, peut-être.
Non, comédien, c'est fait.
Oui, mais peut-être
plein temps.
Peut-être à plein temps, peut-être peut-être papa,
pourquoi
peut-être.
Tu vois, regarde, j'avais un peu raison.
Voilà, peut-être un changement de vie complète.
Un donné. Chat.
Voilà, peut-être un. J'ai déjà une chatte, Hydra.
Ben, voilà.
Donc peut-être autre chose. Je ne sais pas, ou partir à l'étranger.
Non, mais je vous vois pas abandonner ce que vous avez mis autant de temps à construire en termes de.
C'est beau, ça. Je peux déléguer
non,
un peu.
Pas ça. Non, mais vous avez quoi, 3 carrières. Présentateur, comédien et agent immobilier, ces trois carrières-là.
Vous avez un empire.
C'est peut-être quelqu'un qui va me flinguer finalement.
Vous avez mis beaucoup de temps. Non, mais vous avez mis beaucoup de temps à les construire. Elles sont toutes fragiles parce qu'elles reposent sur soit l'état du marché immobilier, soit l'état de l'audimat ou du choix de la pièce. Est-ce que ce qui n'est pas une contrepétrie d'ailleurs, est-ce que le public a envie de vous applaudir ou pas? Non, mais c'est super délicat. De dire je laisse tomber, j'abandonne. Non,
j'ai pas dit ça, c'est que dans mon esprit, je me dis c'est pas possible, elle est con cette voyante quand même.
Oui,
tu vois. Donc il faut quand même que je me rassure, mais j'y pense plus trop, sauf à aujourd'hui maintenant où on m'a remis cette idée en tête.
Fais-moi le pharo. Hein.
Je vous fais les tarots à la pause, vous allez voir.
Ah super.
Tu fais ça toi?
Non, pas du tout. Ah, bon, non, mais je peux pas lui dire pire en fait.
Non, que, c'est vrai.
Alors, mais on va dire positivons.
Positivons.
Oui, que prévoit de faire Stéphane Plaza pour ses 50 ans, c'est-à-dire pour 2020?
Ressuscité.
Une grosse fête. Partir avec tous ses copains. Partir avec tous ses copains en vacances.
Tout arrêter.
Un enfant.
Non.
50 ans.
Ouais. Tout continuer.
Un grand voyage.
C'est 2020. Il est question de voyage, ça se passera pas à Paris.
En Asie. Non. Emmener tous ses amis quelque part sur les jetis.
Ça non. coûte cher, ça.
Non. Radin. Quel radin.
Partir vivre sur un bateau.
Partir faire une retraite quelque temps. Partir vivre dans un pays durablement.
C'est dans un autre pays, oui.
Bah, aller rencontrer trouver quelqu'un. Lequel.
Aux États-Unis.
Oui. Quoi faire là-bas? Quelle ville?
Non, je vais pas remplacer.
Oui, quoi faire à New York?
Comédie musicale.
Non.
Je vais pas remplacer.
Comédie pas musicale.
Agent immobilier.
Vendre la... Trump Tower.
Non, ah, très vrai. Connu là-bas.
Qu'est-ce maire de New York.
Monter en haut de l'Empire State Building.
Non, bah non. C'est un rendez-vous annuel là-bas.
Oh là 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 là.
Ah, le marathon.
Times Square.
Oui,
ah,
Agnès.
Je vais dire la Gay Pride, moi. Je sais pas.
Mais tu me regardes comme ça quand tu dis ça. Je sais pas comment on doit le prendre.
Parce que moi, j'adorerais.
Tu viens de me parler d'enfants et puis après, tu me dis la Gay Pride.
C'est pas exclu.
N'empêche pas l'autre.
On peut être ouvert, monsieur.
Oui, c'est vrai. Soyons ouverts.
Ça, on avait bien compris.
Et vous rêvez de le courir avec Karine Le Marchand.
Normalement, c'est prévu. On part ensemble. Donc, je dois commencer mon entraînement début janvier. Hein, parce que je ne cours pas
temps,
pour l'instant. Bah, ça va quand même. On a encore un peu de temps.
Trois semaines.
Non, ben non, c'est au mois de novembre.
Non, l'entraînement.
Ah, oui, l'entraînement. Là, après,
dans trois semaines.
Oui, oui, je sais. Ouais. Ouais.
C'est chaud, hein.
Ça va faire chier, ça.
Bah,
mais en tout cas, oui, on va partir à New York faire le marathon.
Mais vous courez déjà un semi?
Pas du tout. Non, j'ai fait un 20 km. J'ai fait un 20 km.
On est pas venu semi, ça va. Voilà.
Ouais, je l'ai fait une fois à Paris. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait le 20 km de Paris. Je suis arrivé, donc, après Karine. C'est-à-dire que même au départ, le dossard était perdu. Donc, j'ai dû partir après. Elle était déjà douchée quand moi, je suis même pas arrivé. Au bout de 3h03, je crois que j'ai mis 3 mois à m'en remettre pour pouvoir marcher. Mais je me suis dit, à 50 ans, c'est le moment de faire avec un entraînement le marathon de New
York. Surtout, soyez prudent.
Oui, bah, je vais être prudent.
Ouais, c'est prudent. On va mourir en 2019.
Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça la prédiction.
Ah oui, 2019.
C'est un arrêt cardiaque.
Non, c'est 2020. C'est 2020.
Oh
là.
Mais si, c'est ça, voilà.
Oh, bah, je vais partir avec un médecin.
Faut pas y aller.
Si, je vais y aller. Avec l'enfoiré. Très entraîné.
C'est une émission accueillante, n'est-ce pas? On annonce que Stéphane Plaza veut parcourir le marathon de New York en 2020 et qu'il va mourir lors de l'entraînement en 2019.
C'est lié à ce que il fallait pas évoquer la voyance.
Non, mais finalement, vaut mieux aller à la Gay Pride.
Oui, ouais, finalement, je ferai le marathon de la Gay Pride.
Ça se tient.
Il y a des arrêts cardiaques. Hein.
Et là aussi, il faut de l'entraînement.
Il y a eu une première bande dessinée qui s'appelait Suivez-moi, c'est par là.
Oui.
C'est ça. Qui a été un succès. C'était déjà Dorache et
Toujours.
Croco, qui voilà la même bande. D'ailleurs, comment définir, puisque parlons déjà de cette forme de bande dessinée. On s'approche un peu du monde de Spirou, on s'approche des...
c'est un peu le trait de Spirou d'aujourd'hui. Je dirais pas le trait de Spirou de Franquin. Voilà.
Je parle du dessin. Hein.
Oui, du
uniquement
dessin,
du dessin.
Oui, oui.
D'accord. Et la structure, elle est celle de non pas raconter une histoire en 50 pages, mais plutôt de faire des sketchs, de faire des pages, de faire des tableaux. Ouais, c'est ça.
Ouais, très rapide. Il faut être très très rapide, avoir une idée et terminer très très vite, parce que évidemment il y a très peu de dialogue et donc c'est aussi visuel. Et surtout, il faut raconter un truc et avoir en tout cas essayer d'avoir l'humour ou de décocher un sourire à chaque page.
Ouais. Donc c'est du sketch, quoi, ouais. C'est ça.
C'est du sketch, ouais. C'est comme de l'impro très très rapide de 20 secondes ou 30 secondes pour un comédien, sauf que là ça se passe sur des bandes dessinées. Donc évidemment, c'est pour ça que je donne l'impulsion, parce qu'il faut que ça soit réel, parce que ça se passe dans une agence, enfin en tout cas c'est la vie d'un agent immobilier, c'est plutôt la mienne, et donc j'ai toujours donné le truc, et des fois on va un peu plus loin parce que c'est le tome 2, on a pu aller un peu plus loin dans le comique, un peu plus excentré.
Comment vous mêlez entre guillemets à l'écriture, c'est-à-dire vous dites j'aime pas cette blague.
C'est-à-dire que en fait là il y a 44 pages, donc je dis voilà pour moi je vois une première page comme ça, une deuxième page, et j'aimerais bien que Karine Le Marchand arrive, j'aimerais bien parler du jogging de Karine Le Marchand, et voilà, j'aimerais bien aller sur les agriculteurs. Et
donc
après,
c'est vous qui structurez, qui donnez des pistes.
Je
aux,
donne l'impulsion.
Aux auteurs.
Voilà, je donne l'impulsion. D'accord. Après il m'envoie, après je dis bon bah écoute là ça va pas assez loin, moi ça me fait pas rire ou c'est pas trop décalé. Et après j'ai pris une autre personne beaucoup plus jeune, parce que voilà moi j'ai 48, je voulais travailler avec une autre personne, une jeune femme plus jeune, pour voir si on a l'humour et que ça soit pas trop déplacé non plus. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Et donc on regarde et on dit, voilà, on discute. Et soit je garde, soit je garde pas, ou je leur demande d'aller plus loin.
Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans les bandes dessinées? C'est-à-dire que j'imagine que quand on accepte d'être un héros d'une bande dessinée, on a des références. Vous avez grandi en lisant quoi?
Tintin et évidemment Gaston Lagaffe. On n'est pas très loin déjà, moi, en temps normal. Je suis un croisement entre Mr Bean et Gaston Lagaffe.
Ça, c'est dans la vie normale.
Dans la vie normale. Donc, évidemment, la bande dessinée, j'ai beaucoup lu Gaston Lagaffe quand j'étais jeune. Et le personnage n'est pas très, très loin, je pense. Sauf que c'est la vie, voilà. Ça reste ma vie immobilière. Et normalement, l'impulsion qui est donnée et part d'une histoire vraie.
Ouais, et le but, c'est aussi de mieux comprendre le monde de l'immobilier. Parce qu'il y a tout un tas de termes bien spécifiques qui sont, au-delà de la blague, qui sont quand même expliqués.
Exactement, voilà. C'est, si on peut avoir une info, un petit conseil, etc. Et après, évidemment, je joue aussi sur mes gimmicks favoris, qui sont double vasque, net vendeur. Je parle de mon papa qui fait du vélo et où est ma passion, etc. Et mon côté maladroit.
Il faut expliquer double vasque, parce que ça, c'est une vanne de l'émission.
Oui, c'est-à-dire que
c'est pas une expression d'agent immobilier.
Non, ça, c'est un truc, en fait, je faisais chasseur d'appartement et on me dit, bah voilà, c'est sur fond vert, chasseur d'appartement, et on me dit, allez, sois drôle. Et donc, je vois une double vasque, et donc, j'ai dit, bah tiens, je vais gueuler double vasque, et on m'a demandé après d'arrêter. Et évidemment, j'ai un esprit de contradiction, donc je leur ai dit, non seulement je vais pas arrêter, maintenant je tombe de ma chaise, mais sans matelas. Et donc, c'est devenu, et dans la rue, on m'arrête, les enfants et tout ça, ils m'appellent double vasque, et plus Stéphane Plaza. Et donc, j'ai gardé ce truc à chaque fois dans une salle de bain qu'il y a une double vasque. Voilà. Et parce que, pourquoi? Parce que ça me fait rire, la double vasque, parce qu'on dit, c'est plus pratique. Oui. C'est plus pratique parce que, donc, l'homme va d'un côté, ou les deux hommes, ou les deux femmes, ou le couple, mais c'est toujours la même personne qui nettoie la double vasque. Donc, c'est deux fois plus de boulot, en fait. Il y a une double vasque, mais c'est toujours la même personne qui nettoie. Donc, elle ne sert à rien, cette double vasque. Non, mais c'est vrai.
Le choix de partir et de rester dans le monde de l'immobilier, c'est vous dites, parce que vous pourriez dire aussi, je suis comédien, je peux avoir différentes casquettes, être dans différents univers et profiter du monde de la bande dessinée pour devenir même un super-héros. Enfin, je veux dire, vous pourriez être dans des hélicoptères, dans des fusées, dans des bateaux. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans une agence immobilière.
En tout cas, moi, mon ADN, c'est être agent immobilier. C'est ce qui me met les pieds sur terre et c'est ce que j'aime plus que tout au monde. Après, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc et j'essaye de les utiliser. En tout cas, de profiter de la vie et d'être épicurien. Et en tout cas, je fais toutes les choses à fond. C'est pour ça que cette BD, j'ai voulu vraiment m'investir et j'ai pas voulu donner juste mon nom qu'il y ait marqué Stéphane Plaza, que ça soit commercial et qu'on se dise, tiens, on va acheter Stéphane Plaza. Donc, forcément.
De vos trois métiers ou quatre avec celui de héros de bande dessinée, le seul que vous ne pourriez pas lâcher, c'est l'agence immobilière.
Je pense que oui, tout à fait, c'est sûr à 100%.
Et pourquoi?
Ben parce que je pense que je suis né pour l'immobilier, je rencontre des gens différents.
Enfin, quand vous êtes sur scène au théâtre, vous posez la question?
Sur scène, je prends du plaisir, mais sur scène, bien sûr, si elle marche, c'est fantastique de jouer au théâtre. Mais il y a aussi des pièces qui ne fonctionnent pas, il faut gérer beaucoup.
Mais vous n'êtes pas auteur, vous êtes interprète.
Oui, mais même interprète, quand il n'y a personne dans la salle, c'est quand même un peu embêtant. Ouais. Et puis après, il faut aussi gérer certains égos, alors qu'agent immobilier, je rencontre tout le monde, je rencontre des comédiens, je rencontre des étudiants, je loue à tout le monde et j'ai un vrai contact avec la vie et en plus je connais par cœur ce métier et ça me fait kiffer. Voilà.
Non mais c'est fou comme ça de se dire je ne pourrais jamais lâcher ça.
Je le délègue.
Alors
mais,
que,
mais en tout cas, ça me plaît.
Ça représente plaît. Beaucoup de votre temps aujourd'hui, toujours.
Ça, en tout cas, j'ai la chance de faire mes primes ou mes émissions de télé, donc ça reste sur l'immobilier. Donc, et je recherche sur Paris, je visite moi-même les appartements, même si on m'aide beaucoup et que j'ai appris à déléguer.
Oui, parce que le défaut, oui, vous déléguez, sauf que les clients qui viennent dans une enseigne Plaza aimeraient avoir affaire à vous et pas à quelqu'un qui vous représente.
Oh, ça dépend desquels, mais en tout cas, on retrouve 20%.
Bah, non,
mais
des sosies peut-être.
Il y a des sosies, j'ai des clones dans chaque agence qu'on sort à midi. Mais en tout cas, on retrouve 20% de Stéphane Plaza dans toutes les agences. Il y a une formation qui est différente, les agences sont différentes et il y a un contact, j'espère, différent.
Père Albert, cette bande dessinée.
Comment elle est alors?
Alors, elle vous a plu?
Eh bien, écoutez, mon cher Nangui, cette BDN ne peut que rencontrer le succès quand on connaît la personnalité éminemment sympathique de Stéphane Plaza. Coucou Stéphane. Sympathique, il ne peut qu'inciter, donc, vous l'aviez dit, à découvrir Stéphane sous un aspect, ma foi, inattendu. Non pas Stéphane astrologue, non pas Stéphane marathonien, mais Stéphane héros de bande dessinée. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, vous l'avez dit, Nagui, de son vivant.
Quel privilège.
Tant que ce vivant dure. Pour ma part, j'ai été sensible au calembour qui, à l'image du titre, L'amour est dans le pré, avec un accent circonflexe, ces calembours qui fusent et ponctuent cet album, par exemple page 10, l'enseigne de ce magasin de sanitaire, où l'on découvre les vasques haut de gamme, où cette exclamation... Ça t'embouche un groin, page 10. Ou encore, page 15, un inédit chauffe qui peut. Bref, vous pourriez croire, vous tous et vous toutes qui me faites la charité de m'écouter, que c'est la passion de l'humour ou le copinage qui prévaut dans le choix de nos invités à la bande originale. Eh bien, détrompez-vous! Ça ne se passe pas comme ça. La preuve, à 11h05, juste après les infos, quand JNB, le rédacteur chef, vous a dit, Nagui, que Stéphane Plaza était notre invité.
Ah bon?
Vous vous êtes écrié. Stéphane Plaza! Je hais les agents immobiliers. Tiens, une devinette. Quand est-ce qu'on peut voir qu'un agent immobilier est un menteur? Non, mais je ne sais pas. Eh bien, quand il bouge les lèvres. Vous devriez faire, humoriste dans la bande originale. Ça relèverait le niveau. Tais-toi et trouve-moi un autre invité. C'est trop tard. Mais vous savez, dans son album, Stéphane Plaza vous cite page 12 en compagnie de Hanouna, Arthur, Nikos, oui. Jackie et Michel.
C'est vrai.
Ah, ça change tout. S'il me cite avec mes potes, passe-moi ta fiche. Voilà, cher Stéphane Plaza, comment se prépare la bande originale. Dans le narcissisme le plus exacerbé, les retournements de veste et l'apologie de la pornographie. Bonne émission malgré tout.
Merci.
La bande originale, lundi sur France Inter.
C'est vrai, absolument. J'ai le privilège d'être cité dans la bande dessinée. Mes avocats d'ailleurs s'occupent de ce problème et contacteront directement les éditions.
Et dans de drôles de positions, on peut le préciser.
Non,
non.
Ce sont des animaux dans une ferme. Oui. Ils font ce qu'ils veulent. Ah. Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Et les ânes au milieu, c'est quoi?
Non. N'importe quoi.
Ils sont des amis.
C'est des amis.
Alors, mais t'es totalement...
Vous pouvez lire la légende?
Mais tout va bien.
Il n'y a rien. Nikos, Lesviane et Louane, Nagui, Taratata.
Et la suite?
Michel, monte pas sur Jackie.
Voilà.
Mais, bah, mais c'est pas non plus...
Oui, c'est pour Michel et Jackie.
Non, mais Nagui est dans cette scène, néanmoins.
Il est en périphérie.
Il observe.
C'est une nouvelle position.
Merci, merci.
Je n'ose pas encore participer.
Voilà. Ça s'est fait.
Et voilà.
Bon, ben j'ai un procès, merci.
Il faut créer le buzz. Ouais,
j'ai vu, j'ai vu.
Il faut créer le buzz. Stéphane Plaza, profession agent immobilier, l'amour est dans le pré avec un petit chapeau sur le E aux éditions Jungle. C'est signé Dorache et Quaco. Voici Agnès Hurstel.
Bonjour, bonjour. Hier bonjour. Soir, à la télévision, il y avait évidemment le programme érotique et vintage qu'on attendait tous, Emmanuel. Donc en cachette, comme une ado devant un petit porno RTL 9, j'ai regardé. Et je vais vous dire un truc. J'ai l'impression que le président s'était maté 2-3 replays de maisons à vendre tout le week-end avec Brigitte. Et que c'est le délicieux principe du home staging qui a complètement motivé son discours d'hier soir. C'était sa petite métaphore filée hier, le home staging. La revalorisation immobilière. Optimisée, rangée, vidée, feng-shuiser une salle de bain, mea culpaiser une relation à coups de poutre apparente, grosse moulure, cheminée ramonée, double vasque, réparer, assainir pour créer le coup de cœur, convaincre et vendre. Hier soir, dans ma télé, Emmanuel Macron, c'était un peu comme quand la personne avec qui tu vis rentre à 5h30 du matin hyper bourrée, sans t'avoir fait un seul petit SMS de toute la nuit pour te dire avec qui il était ou ce petit chien de la casse, et que toi t'as eu peur parce que t'as cru qu'il était mort ou pire, heureux. Emmanuel m'a parlé hier soir de sa voix d'ange, douce, basse, désolée, encore un peu ivre, il avait l'œil humide, il était penaud, mais motivé, parce qu'il savait qu'on allait s'engueuler tout le week-end malgré ses reflux gastriques et sa barre dans le crâne. Est-ce qu'on est heureux ensemble, Manu? Est-ce qu'on va se séparer? Est-ce qu'on dissout notre assemblée? Est-ce que je vais tout casser comme samedi dernier? C'est confrontant, le couple, les amis. Hier soir, Emmanuel disait « prime de fin d'année ». Et moi, j'entendais « fais pas la gueule, bébé, j'ai un peu déconné. Ouais, j'ai bu, j'aime ça la déglingue, mais c'est ça qui t'a plu chez moi quand on s'est rencontrés. Puis je te jure, j'ai pas dansé. Puis il y avait pas de filles. De toute façon, les filles, je leur parle de toi ou de ma mère, donc elles me parlent pas. Je t'aime, bébé. Je suis désolée. » Hier, Emmanuel déroulait le tapis lexical de la dispute conjugale. Il a dit dans ma télé, nous avions fini lâchement par nous y habituer. Il a dit, ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Sentiment de ne pas être entendu, barrière, distance entre nous. Je sais que je t'ai blessé, d'autres priorités. J'étais charrette, bébé. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Je vous jure, il a dit ça sur TF1. Je te jure, c'est mon mec qui parlait. Et j'avais envie d'y croire. J'y croyais. Mais je le montrais pas pour pas qu'il gagne trop vite. Sinon, c'est trop facile. Faut pas céder trop vite dans ces disputes-là. Il y a trop en jeu. Une phrase trop vite dite et tu te retrouves enceinte. Ou célibataire, faut pas déconner. Et à la fin, Emmanuel a dit « Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Je crois plus que tout dans notre pays et je l'aime. » Et moi, j'entendais « Je t'aime, bébé. On va y arriver. Ne nous séparons pas. Homestageons simplement notre couple. Poutre apparente, charme de l'ancien. Si tu te rajoutes des seins et que je me rajoute des cheveux, franchement, on est presque un nouveau couple. On arrête la stratégie du pourrissement. Ça ne marche plus. Je te regardais plus. Maintenant, je vais te regarder. On optimise, on range, on répare. Repeignons la chambre en bleu. Baisons un peu mieux. Voyons moins ta mère, ça va aller, on va passer l'hiver. Et au pire, l'été prochain, on appellera Stéphane Plaza et on vendra.
C'est cool, merci.
Bravo.
Agnès Hurstel, on te retrouve jusqu'au 29 décembre au rond-point.
Oui.
À propos, tiens, on appellera Stéphane Plaza et
oui, je suis là.
Et on vendra. Non, mais c'est, est-ce que tout est vendable? Est-ce que vous avez déjà visité des maisons, des appartements, des fermes,
des taudis,
en disant c'est pas possible. On trouve où il y a toujours quelqu'un qui est preneur.
Tout est vendable.
C'est une question de prix.
Ça dépend comment c'est estimé. Tout n'est pas vendable si c'est trop cher. Par exemple, moi je ne prends pas ce bien. Si tout est explicable en tout cas et tout peut se vendre. Mm-hmm. Après tout dépend si on est là pour dire la vérité, pour être transparent.
Paris est l'une des places les plus chères en termes d'immobilier au monde.
C'est pas la plus chère au monde, non.
C'est Londres ou New York?
Londres et New York, depuis que Donald Trump est revenu. Mm-hmm. Je crois que New York a tout explosé, il me semble. En tout cas, Londres est beaucoup plus cher que Paris. Et en plus, sur Londres, c'est des baux qui se terminent. Donc, on n'achète pas à vie. Donc,
on n'est pas propriétaire.
99.
Non, 99
ans. Phytéotique.
Voilà. Donc, c'est compliqué. Enfin, oui.
Je vous regarde. Je croyais que les Anglais étaient au contraire très.
Guy vient de se rendre compte qu'il s'est fait avoir sur une opération.
Il fallait passer par moi.
Ce château que vous avez acheté avec la vieille dame en bleu, à 99 ans, il faut le rendre, Nagui.
Je croyais que les Anglais étaient très propriétaires, justement.
Ben, ils ont cette volonté très propriétaire, mais ils achètent que des baux, donc c'est compliqué. Ça dépend quand est-ce qu'on arrive, mais c'est beaucoup plus cher que Paris. Mais en France aussi, on a ces baux-là, ça dépend des régions. Ouais. Mais c'est très très rare, et en tout cas, c'est pas dans notre culture.
Nous, acheter, c'est dans notre culture, en revanche. Voilà. Nous, on aime acheter.
Nous, on aime être propriétaire. Ouais. On rêve tous d'être propriétaire.
Les Anglais, ils ont...
Les Anglais n'ont pas Stéphane Plaza, ça suffit, Nagui.
Ils achètent en France, en Normandie, autour de Carcassonne. Non, mais ce que je veux dire
par là, par rapport à d'autres pays d'Europe, la culture n'est pas d'acheter.
Il y a des régions où les Anglais ont acheté plein de maisons.
Non, mais tu parles des Anglais, mais moi je te parle aussi des peuples. Je te parle des Espagnols, des Portugais ou des Allemands, par exemple. Les Allemands sont rarement propriétaires du bien dans lequel ils vivent.
Dans leur principe. Dans l'éducation, d'accord.
Les Anglais avaient beaucoup de maisons secondaires, c'est un peu revenu, tout ce qui est en Normandie, tout ça. Hein.
C'est revenu parce qu'ils ont été taxés. L'Angleterre taxe les Anglais sur les maisons qu'ils ont à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus.
Il y a tous ceux qui peuvent pas acheter aussi.
Une partie famille anglaise, je suis sûr de ce que je dis. Pour en revenir à ce que vous dites, si c'est trop cher, je ne prends pas.
En tout cas, Paris,
non mais à Paris, il doit bien y avoir des choses tellement dingue et extrêmement cher où il y a toujours un émir ou un milliardaire qui débarque moi ça m'intéresse.
Alors après, ça dépend. C'est-à-dire que quand c'est trop cher et que c'est très beau, peu importe, il n'y a pas de prix quand il y a des choses exceptionnelles. On ne peut pas toujours fixer un prix quand il y a des vues exceptionnelles.
C'est quoi un truc exceptionnel?
Une vue sur la Tour Eiffel, un rooftop magnifique avec pas de vis-à-vis à 360.
Un rooftop.
Le rooftop. Parce que c'est les Russes qui achètent ça, tu comprends?
Non, mais c'est quoi ça?
Un rooftop.
La prononciation du Gémeaux.
Ouais, du Gémeaux, tu sais, c'est mon anglais. Les Rustoches.
T'appelles ça un Rustoche, toi?
Ouais, parce que c'est toujours les Russes qui achètent, pratiquement.
Ok, d'accord.
Mais en tout cas, voilà, donc il y a des choses qui sont exceptionnelles, et là, on a du mal à fixer un prix. En revanche, quand c'est quelque
chose... Alors, comment vous faites pour le vendre, si vous n'avez pas de prix?
Non, c'est-à-dire, on a un prix, mais on ne peut pas s'arrêter. Ça peut être 20, 25 000 euros près du mètre carré, 30 000, 40 000 euros.
Il paraît que la moyenne de l'immobilier à Paris, vous allez me confirmer ou pas, si je prends une feuille A4, ça vaut 500 euros. 500 euros cette feuille A4 là.
Je sais pas, mais je vais la garder.
Tu t'es fait avoir, c'est hyper cher.
Je vais la garder.
Non, pour savoir que vaut un prix en moyenne un mètre carré à Paris.
C'est à peu près. De toute façon, Paris c'est devenu très très cher et depuis 2 ans tout a explosé vraiment.
Mais ça c'est fait pourquoi? Pour vider la capitale justement, pour qu'il y ait moins de.
En fait, il y a des acheteurs.
Il y a des bureaux. Il y a plus de bureaux que d'habitations maintenant.
C'est l'offre et la demande et mais tout se vend à Paris depuis 2 ans. Les prix augmentent encore et même les quartiers qui étaient dits un peu difficiles et qui étaient à 6 000 euros prix du mètre carré sont passés à 8 000, donc c'est compliqué. Moins de 10 000 euros, on a du mal.
Est-ce qu'il y a des villes de province comme Bordeaux, Toulouse, Marseille qui rattrapent ce niveau-là?
En tout cas, Aix est très très cher, Nice est très très cher aussi. Paris n'est pas forcément la capitale plus chère.
C'est pour ça que j'en parle, oui. Ouais. Et il y a des villes à la mode où il y a des tendances, il y a des années où, je sais pas, je sais que quand le TGV est arrivé à Aix et à Marseille, l'immobilier a flambé parce que évidemment tout était à 3 heures à peine de Paris.
En fait, sur Marseille, il y a une grosse évolution et les prix sont partis très très haut. Sauf que sur Marseille, c'est très compliqué. Ça restait un port au début et donc on a du mal à avoir une vraie estimation parce que tout est très cher et on a dû il a fallu redescendre un peu les prix.
Quel rapport avec le fait que c'est un port?
Parce qu'en fait, les maisons étaient faites de un peu de briques et de broc au départ et donc ils ont pris un ampleur pour la ville.
Il n'y a pas que des cabanons de pêcheurs.
Non, je dis, justement, mais tout a augmenté terriblement avec le TGV.
D'accord. Voilà.
Dès que le TGV est arrivé, on s'est dit, tiens.
Il y avait une nouvelle clientèle qui est arrivée.
Toutes les maisons vont être beaucoup plus chères, quelle que soit la maison, qu'elle soit de qualité ou pas de qualité. C'est pour ça que je vous dis que tout ne se vend pas. Une estimation doit être faite quand on se déplace. Un prix au mètre carré veut rien dire. S'il y a des fuites partout, si la robinetterie.
Il y a eu des modes dès l'instant où.
Mais dès qu'il y a un transport qui arrive et qui est rapide.
Et puis le fait que Laurent Ruquier, Cadmérade, des personnalités comme ça commencent à habiter
sur Marseille. On va donner leur adresse.
Ça, non.
Tant qu'on y est.
Mais ça se. Je ne sais même pas où ils habitent, mais je sais que ça se sait. J'imagine que là aussi, ça crée une espèce de mode.
Mais comme Avignon, comme Toulouse aussi, y a des villes qui explosent et qui sont à la mode et après qui sont un peu moins à la mode.
Et à l'inverse. Il y a des logements surtout qui sont complètement insalubres encore dans des villes comme Marseille et qui arrivent à se vendre quand même.
En tout cas, là, ça s'est assaini Marseille et c'est devenu un peu plus logique, en tout cas dans les prix, depuis un an ou deux ans.
Tu faisais référence malheureusement aux immeubles qui s'écroulent mais là, c'est carrément des fautes.
Oui. Voilà. Mais là, c'est pour ça que tout n'est pas correct et tous les logements ne sont pas corrects. Donc, il faut faire attention quand on achète quelque chose. Un prix au mètre carré ne veut rien dire. Il faut vraiment voir la structure de l'immeuble, évidemment, la preuve. Mais il faut aussi voir les installations, les robinetteries. On peut jamais faire une estimation, par exemple, par téléphone et d'un quartier à l'autre, du 8e arrondissement ou du 5e arrondissement, c'est pas du tout le même prix.
Mais il y a des lois, j'imagine, qui protègent sur les malfaçons.
Si on est un professionnel, oui, mais si on est normalement.
Vous dites, il faut vérifier les tuyauteries, machin. Si on se rend compte après que.
Non, si vous êtes un particulier et qu'il n'y a pas de. Vous n'êtes pas professionnel, donc il n'y a pas de vis de forme. Donc c'est le. Voilà. Par une agence, oui, il faut. Quand vous passez par une agence, c'est considéré comme un professionnel. Donc là, vous pouvez vous retourner. En revanche.
Il y a une assurance, quoi.
Voilà. Si vous n'êtes pas professionnel et que vous vendez quelque chose.
C'est pour ça que c'est plus cher avec, par une agence.
Pas forcément. Plus
de particulier à particulier.
Non, parce que comment ça se passe en général? Non, mais ça, c'est vrai. Parce qu'en général, les particuliers font venir des agences. Donc l'estimation est faite par les agences. Et après, ils se mettent au prix de l'agence, voire un peu plus, puisque voilà. En fait, ils veulent regagner la commission d'agence dans leur prix à eux.
Mais pourquoi il y a une réputation toujours de mensonge autour de l'agent immobilier?
Bah pourquoi le garagiste répare pas? Non,
détournez pas ma question.
Non, mais en fait, parce qu'il y a eu au départ, on disait que c'était un métier facile quand on était là juste pour ouvrir une porte et que l'argent était facile. Ouais. Mais par exemple, quand vous allez dans n'importe quel autre pays, l'agent immobilier est beaucoup plus respecté. C'est que le Français a un peu des oursins dans les poches et on se dit pourquoi aller payer 10 000 €, 5 000 €, 4 000 € à quelqu'un qui ouvre une porte? Heureusement, les dossiers sont devenus beaucoup plus compliqués maintenant avec tous les diagnostics, toutes les lois et donc on a un peu plus de valeur. De l'agent immobilier, mais partout ailleurs, dans n'importe quel pays, c'est normal de payer quelqu'un pour trouver quelque chose.
Y compris pour trouver des locations, y compris pour préparer des dossiers et des cautions, il faut toujours avoir 25 membres de la famille qui cautionnent parce qu'on peut pas louer tout seul.
Ça c'est la.
Il faut trop de garanties.
Puis des membres de la famille actifs.
Ça c'est un peu la loi qui est un peu mal faite, c'est que soit il faut un garant, même quand vous gagnez bien votre vie et même quand vous avez 40 ans, soit ce qu'on appelle une assurance de loyer impayé. Mmh. Et cette assurance de loyer impayé, comme toutes les assurances, ils ont tellement de garanties que c'est impossible d'avoir accès. C'est-à-dire que là, quand vous avez une assurance de loyer impayé, il faut avoir 3,5 fois, voire 4 fois le revenu en salaire.
C'est dingue,
et que vous pouvez même pas prendre un garant. Et ça veut pas dire que parce que vous gagnez beaucoup d'argent que vous allez être un bon payeur. C'est ridicule, ça. Sauf que comme la loi, quand on a un mauvais payeur, on peut pas mettre les gens dehors. C'est devenu compliqué. Et qu'en France, on a l'impression que quand on est propriétaire, on est riche. C'est pas du tout. Il y a des retraités qui prennent un appartement, pour faire leur retraite, il y a des parents qui prennent pour leur enfant et qui louent en attendant. C'est pas parce que vous avez un appartement que voilà. Et sauf que vous pouvez pas mettre les personnes dehors, quelles que soient les conditions où ça
mais
prend 2 ans.
Est-ce que c'est pas à dépenses équivalentes? Est-ce que c'est pas plus facile d'obtenir un crédit dans une banque pour devenir propriétaire que d'avoir des garanties et des cautions pour être locataire?
En tout cas, quoi qu'il arrive, que quand vous pouvez acheter, oui, c'est plus facile d'avoir. Et puis en plus, vous choisissez votre appartement, vous choisissez ce que vous pouvez acheter. Quand vous êtes locataire, c'est le propriétaire qui décide.
Et il vaut mieux avoir plus petit être propriétaire?
Ah, je pense, oui, il vaut mieux un plus petit chez soi qu'un locataire, il va décider ce qu'il veut, quoi. S'il veut reprendre l'appartement, il va le reprendre avec un préavis, vous êtes obligé de...
T'as fait ta propre famille dans l'appartement, par exemple,
Si 6 mois avant, si vous prévenez, vous pouvez reprendre l'appartement.
On peut se faire virer.
Oui. On peut se faire virer du
prix. Je connaissais pas cette passion, Nagui, que vous aviez pour l'immobilier, là, ça fait...
J'essaie de comprendre.
Si t'es propriétaire, tu peux décider de demander à tes locataires de partir après un certain temps, en disant que l'appartement, tu vas l'utiliser pour le louer à ta fille, à ton neveu.
Il faut faire un enfant, hein.
Ouais, alors ça, c'est encore autre chose.
Ça, c'est encore autre chose.
La bande originale de Stéphane Plaza en 1970, la musique que vous entendiez à la maison, c'était...
Donne-moi ta main et prends la mienne.
C'est là.
On est dans les années 70. En 70 même, Stéphane, l'année de votre naissance. Et vous êtes un petit garçon qui...
Mais oui.
Oui, bah oui, oui,
oui, oui, oui, oui. Ça n'a pas changé.
Un grand garçon.
Et alors, on peut changer la vie. Et vous avez décidé... L'école, c'était pas votre truc, en fait, je crois.
Quand elle était finie, c'était mon truc.
Ouais, voilà, c'est
voilà,
ça.
Voilà. Ouais. Ça m'a marqué. Non, c'était pas vraiment mon truc. L'école m'a rattrapé. Les études m'ont rattrapé, on va dire.
Ouais.
Voilà, je suis plutôt un autodidacte, mais heureusement, à l'époque, on pouvait le faire. Maintenant, vaut mieux aller loin dans les études.
Vous étiez bon en quoi ?
En mathématiques. Bah, c'est les commissions. Bah déjà, les commissions. Ouais, l'argent, déjà. L'argent.
1998. One wake me up before you go go. Et
c'est une année marquée par un accident,
98,
ouais. une chute assez terrible qui fait que vous brisez les deux talons.
Les deux talons, oui.
En tombant dans un escalier.
Je suis tombé dans l'escalier. Je n'avais pas bu, hein, je précise, mais
pour une fois.
Oui, merci pour le. Le salaud.
Mais c'est vrai que les talons, c'est difficile. Pour marcher dans l'escalier,
j'avais
c'est
un stiletto. Ah,
j'avais les talons de 12 mètres, c'est pas facile à marcher. Je
12 centimètres.
Voilà, ouais, oui, 12 centimètres.
Ouais, 12 mètres.
C'était impossible, 12 mètres. Hein, ouais, tu vois, c'est... Non, et je suis tombé, je me suis brisé les deux talons. Et oui, et j'ai fait 8 mois de convalescence et quelques opérations, 8 ou 9, pour être de nouveau en état de fonctionner.
Mais alors que vous faisiez de la danse, donc vous êtes plutôt quelqu'un qui sait bouger avec son corps.
3h du matin, je ne devais pas faire de la danse. Peut-être que j'avais un retour d'alcool, peut-être finalement.
Ouais, mais
en tout cas, dans quand
même. Oh, bah ça va, dis donc.
Non, mais ça, c'est quand même une grosse période coupée du monde aussi.
Oui, mais ça, c'est bien parce que ça remet les choses en place. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me rappelle, j'organisais des soirées en fait. J'avais un carnet d'adresses et j'allais dans les boîtes de nuit. En fait, je donnais la clientèle, on était trois potes et on avait un peu accès à toutes les boîtes de nuit. Et du jour au lendemain, donc je me suis retrouvé 8 mois à l'hôpital et on va dire que 2 semaines après, bah, mon téléphone n'a plus beaucoup sonné, voire plus sonné. On venait plus m'emprunter ma belle voiture, ni rien du tout. Et j'ai eu peu de monde à l'hôpital et ça remet les choses en place. Alors soit on est aigri.
Vous êtes conscient de la fragilité
de tout.
De tout. Et y compris maintenant, évidemment, votre notoriété. Voilà.
Mais d'ailleurs,
vous dites toujours, je suis plus à la télé, on parlera
moins. En tout cas, j'ai toujours dit que, heureusement que la télé m'est arrivée à plus de 30 ans qu'à 20 ans, sinon j'aurais pu péter les plombs et être con. Je vis les bons moments, mais je laisse les cons de côté. Je sais très bien qu'on va moins me regarder si je suis moins à la télé ou si j'ai moins d'agence, peu importe. Il y a du bon dans chaque personne et moi maintenant je vis ma vie en respectant les autres.
En 2006.
George Michael, Prince.
Ah, il aime bouger. Hein.
Et en 2006, Stéphane, c'est Recherche Appartement ou Maison, l'émission qui vous a aussi fait connaître massivement, pour le coup, du grand public.
Ouais, oui, ouais. Alors déjà, Prince, pour moi, c'est l'un des plus grands chanteurs et je kiffe vraiment. Donc, et c'est, voilà, j'ai embrassé le monde et les téléspectateurs, mais avec mon cœur et les sentiments, parce que j'ai pas voulu être formaté, ni dans ma façon de m'habiller, ni dans mes discours. Et donc, on a fait d'abord une émission, puis après 5 émissions, puis après 10. Et aujourd'hui, voilà, je suis arrivé en plus un peu innocemment à la télé, parce que moi, je voulais vraiment qu'on arrête de dire que justement agent immobilier n'était pas un métier et je me rendais pas compte du tout où j'allais atterrir et j'ai jamais vraiment demandé à être animateur ou à la télé. Je rêvais de théâtre mais jamais d'être animateur et du jour au lendemain ma vie en tout cas a changé progressivement et ça a été empirique et c'est monté.
Qui est venu vous chercher ?
C'est Réservoir Productions et au bout de 6 ans paix à son âme, Jean-Luc Delarue m'a dit profite de ces moments là que tu as etc. parce que là ils sont bon, t'es connu, mais pas trop connu. Après, tu vas passer peut-être une sphère, ce que je te souhaite, ou pas, parce que là, tu vas être un peu, il va y avoir de la solitude autour de toi.
Donc, vous l'avez connu, lui,
personnellement
oui, et humainement. Et tout ce qui s'est passé autour de lui, les livres qui sortent, les racontars,
c'est de la merde. C'est de la merde, parce que tous les gens qui le connaissent très bien, déjà, n'ont pas besoin de buzz, n'ont pas besoin d'aller à la télé raconter des choses. Je pense que quelqu'un est parti, paix à son âme, il a eu des travers, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, il a eu tort de faire ça.
Pourquoi remuer ça après? après. C'est
pourquoi
ça
remuer ça après? Pourquoi pour avancer sur quoi? Juste pour avoir un nom à côté de Delarue, parce que c'est un grand homme, c'est un quelqu'un qui a été très brillant, qui a fait beaucoup de bien autour de lui, qui a été très aimé par les téléspectateurs. Laissons-le en paix. Il a un fils et arrêtons de l'emmerder. C'est tout ce que j'ai à dire.
Et est-ce que vous avez connu le vertige dont il vous parlait, même temporairement, de cette solitude associée à la célébrité?
La solitude, je pense qu'on l'a toujours malgré qu'on pense, enfin en tout cas quand on est assez connu, parce que on est très entouré, mais finalement on est très seul. C'est-à-dire que quand une émission fonctionne ou une, quelle qu'elle soit, on a toujours l'impression que c'est que l'animateur, mais en fait il y a beaucoup de monde autour, et quand elle ne fonctionne pas, c'est aussi que l'animateur. Donc on a beaucoup de poids sur les épaules, et par exemple si on prend un téléphone et qu'on le met ici, on va dire bah tiens pourquoi il a mis son téléphone là, ou on le déplace, ou un verre, si on a bu un verre on va dire qu'on en a bu 10, tout est facile et donc on se sent de plus en plus seul. Mais après ça tout va bien hein, mais voilà, il faut faire attention à ses amis.
Le regard des autres ne vous dérange pas?
Non, je peux me mettre nu sur scène.
Ouais, ce que j'allais dire, ouais.
Mais je vis ma vie et je fais ce que j'ai à faire avec mon cœur. Et si j'ai envie,
raison.
Voilà, je vis
sans
à 100%.
Sans vous soucier du candidat,
non. Non, parce qu'il arrive, il repart et ça reste, le buzz n'est pas beaucoup là.
La bande dessinée s'appelle Stéphane Plaza, et en sous-titre, L'amour est dans le pré. Catherine Rambert, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à notre micro. Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez été longtemps rédactrice en chef de Téléstar.
Absolument.
Donc vous connaissez ce monde de la télévision, c'est quand même la première fois qu'on retrouve une personnalité de la télévision, héros de bande dessinée. Comment expliquer le succès, la marque Stéphane Plaza?
Le succès de Stéphane Plaza, il s'explique d'abord par sa grande compétence et le désir des chaînes maintenant, je parle pas de journalisme, je parle de l'animation, de faire appel à des professionnels pour augmenter leur degré de crédibilité et la confiance des téléspectateurs. Et Stéphane Plaza, il allie à la fois cette compétence, cette crédibilité, avec de l'empathie, du sourire, de la bonne humeur, comme quoi la compétence et l'empathie, c'est possible. Hein, voilà. Je dirais même que c'est l'anti-Macron de nos jours, Plaza. Voilà, beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie pour les gens, et une grande crédibilité, une grande compétence. Voilà.
On est en direct.
Très bien. De toute façon, ils ont son adresse.
Hein. Tu crois?
J'adore le mec qui se désolidarise.
Je pense pas être leur principal problème en ce moment.
D'un coup, le propos, là, je vais très bien. Ok. Je m'attendais pas à cet outing. Est-ce que...
Moi, je l'aime beaucoup, ce... Hein.
Si ça vous va, très bien. Ils ont votre adresse aussi.
Ah oui, ça, ils la connaissent bien.
C'est l'un des rares animateurs qui incarne M6, qui n'a pas... je sais pas, il doit y avoir 3-4 animateurs, je sais ce que je prends des risques en disant ça, qui porte la chaîne.
Ouais.
Non, mais par rapport aux autres chaînes de télévision, où ça se compte plutôt en dizaines, le nombre d'animateurs, là, il y a Stéphane Rottenberg, Karine Marchand, vous...
Chebès, Lignac, voilà, mais après...
Un peu moins
Jean-François Piège, ouais, mais qui, eux, sont des professionnels, justement, et pas des animateurs de télé au sens propre. Ça veut donc dire que la chaîne repose sur ses valeurs sûres aussi?
Ça veut dire déjà que c'est un homme fidèle, hein, 10 ans, je crois que c'est la 10e année que vous exercez sur M6, donc c'est assez rare en ces temps où on a tendance à se vendre un petit peu comme dans le mercato de foot, au plus offrant.
Et puis les chaînes gardent aussi.
Et là, aucune vanne, non?
Si vous voulez, okay, je peux en faire une autre.
Il y a Ginola, Ginola.
Et surtout, oui, en effet, ça devient du coup une valeur sûre. Je pense que quand on cite maintenant M6, je crois que les premiers animateurs qui sortent, c'est vous-même et Christina Cordula. Donc,
ce sont des
piliers de la chaîne. Ouais.
Le fait que ce soit, qu'il soit crédible dans un monde professionnel autre que la télévision et qu'il s'appuie sur cette notoriété, ses connaissances pour exercer à la télé, à part Stéphane Plaza, Michel Simès, c'est les deux qui ont cette crédibilité de grands professionnels et qui restent d'ailleurs dans ce domaine de leur profession pour exercer leur animation. Il y a d'autres exemples?
Il y a peu d'exemples. Il y a des économistes comme François Langlais qui amènent une vraie contribution avec un vrai regard économique. Mais surtout, en fait, ces professionnels-là, ils amènent leur crédibilité au service d'une chaîne, mais ils amènent aussi leur humour. C'est-à-dire que ce sont des animateurs qui s'ignoraient avant de devenir animateurs. Donc, ils allient à la fois le côté compétent qui rassure, et les gens ont vraiment besoin, surtout dans l'immobilier, d'être réassurés d'une compétence. Et en même temps, Stéphane a montré l'étendue de son talent en étant drôle, en étant faisant de l'humour. Il montre qu'on peut être compétent et être très décalé.
Mais est-ce que c'est une nouvelle tendance qui risque de continuer, de se poursuivre? Est-ce que les télévisions vont aller chercher d'abord des professionnels de leur domaine? Ce qui est un peu le cas aussi, je pense, à The Voice, où les jurés sont des éléments importants de la mécanique de l'émission. Donc ce sont des chanteurs qui viennent jouer un peu le rôle aussi d'animateur ou de co-animateur au milieu d'une émission.
Oui, je crois qu'on peut dire que ça peut être une tendance dans l'avenir. Encore une fois, je parle notamment...
Non, mais, on prend des Vicente Lizarazu, joueur de football, pour faire pour animer, présenter Téléfoot, co-animer Téléfoot. C'est-à-dire, on se dit... Plutôt que de mettre quelqu'un qui est simplement journaliste, ce qui est déjà une bonne chose, mais journaliste, et qui pourrait être journaliste dans différents domaines, au moins là, c'est une marque, et il est marqué sur son front le métier, le domaine dans lequel il évolue.
Absolument. Étant journaliste moi-même, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur les journalistes et sur le manque de confiance qu'ont les Français à l'égard des médias.
C'est pas ce que je voulais dire.
Vous
pouvez parler de plusieurs choses. Un journaliste peut parler de plein de choses différentes.
Mais je pense qu'il y a un besoin, une demande de spécialisation et de compétences extrêmes dans un domaine, ce qui n'empêche pas en effet des gens un peu plus multicartes. Ça répond à un désir vraiment de réassurance qu'ont les Français, notamment vis-à-vis des médias et vis-à-vis des voix dans les médias.
C'est le cas aussi à l'étranger de voir cette spécialisation des animateurs.
Je crois que ça arrive. Alors l'exemple le plus fameux, c'était Trump qui animait une émission aux Apprentices, qui était un homme d'affaires à l'époque. Bon, on a vu ce que ça a donné. Je ne sais pas si vous comptez vous présenter à la présidentielle.
Pas encore, mais voilà, enfin bon...
Ça venait de grand dérapage.
Non, c'est pas prévu du tout.
Non, mais il y avait un célèbre psy qui s'appelait Dr Phil, je crois, qui avait été aussi animateur d'émissions, une émission d'accueil, comme ont pu le faire justement et Jean-Luc Delarue ou Sophie Davant ou autre, et qui avait fait un carton... aux États-Unis. Donc visiblement, la notion de je suis un professionnel et je me sers de mon métier, de mon savoir-faire pour passer devant les caméras, c'est une tendance maintenant. Est-ce que c'est juste l'une des pistes ou est-ce que ça deviendra un phénomène de mode et où il n'y aura que des professionnels qui viendront à la télé ? C'est un peu ça la question qu'on peut se poser aussi.
Alors moi je ne suis pas voyante, mais je pense que néanmoins on peut s'appuyer sur cette tendance-là, parce qu'il y aura
une
vraie demande de faire venir des vrais gens dans la télé, les gens du métier, les gens du terrain. Et je pense que oui, Stéphane correspond bien à ça, mais comme Simès, comme d'autres, voilà, faire rentrer la vraie vie dans la télévision.
Ils ont donc l'un des points communs entre Stéphane et Michel, c'est qu'ils ont gardé leur autre métier. Ils n'ont pas abandonné leur métier pour la télévision. Encore. C'est une manière de se protéger en cas d'arrêt de la télé, à votre avis ?
Ça, c'est possible. En tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est quand, pour certains animateurs ou personnalités qui n'existent que par la télévision, c'est sûr que quand on quitte les feux de la rampe et quand on quitte l'antenne, il y a un décrochage compliqué. Là, l'avantage de gens comme Simès...
C'est une dépression, en fait, quand ça s'arrête.
L'avantage de Michel Simès ou de Stéphane Plaza, c'est qu'ils ont d'autres... D'ailleurs, Stéphane a expliqué qu'il est attaché à son métier, qui est son référent, sa valeur, c'est ce qu'il aime. Si demain la télé s'arrête, ce sera peut-être un petit peu dur pour lui. Mais normalement, il a un métier derrière et il a prévu la suite, si je puis dire.
C'est-à-dire qu'aussi, on peut se permettre de refuser des programmes qu'on ne veut pas faire. C'est ça l'avantage.
Ce
qui a été mon cas, en tout cas. Et j'ai aussi arrêté un programme qui changeait trop et qui ne me convenait plus.
Sous quel prétexte? En disant, c'est plus de l'immobilier, ça m'intéresse
pas. Non, pas du tout. En fait, moi, j'avais fait un programme qui était un jeu. Qu'est-ce que je sais vraiment avec Carré de Lemarchand? J'étais venu en pompier, donc j'ai fait un an, puis deux ans, puis trois ans. Et puis ça a évolué et c'était pour moi moins drôle. Il y avait moins d'happening, etc. Ça ne me correspondait plus. J'avais rempli une tâche par rapport à ma chaîne. Et si ça ne me correspond pas, j'ai pas envie d'aller faire quelque chose juste pour gagner un salaire. Moi, j'ai la chance d'en avoir, en tout cas, d'avoir un autre métier. Ça me permet aussi d'avoir une distance et de dire, si j'y crois pas, je n'y vais pas. Et la télé, je suis très content de l'avoir fait, mais je sais que ça va s'arrêter du jour au lendemain, ou de mon fait, ou du fait de la télé, parce que ça peut être aussi un animateur qui part quand on a un peu fait le tour.
Bien sûr.
Parce que ça, c'est l'intelligence de la chaîne. On disait, vous êtes fidèle à M6, mais M6, ça fait en sorte de pas vous perdre non plus pendant cette décennie. Ça veut dire que ils sont très attachés à vous quand même.
Oui, en tout cas, ils m'ont suivi dans beaucoup de choses et ils sont plutôt intelligents et surtout on a un langage très direct avec cette chaîne. Après, moi, j'ai le respect du ventre, donc.
Mais ils sont aussi partenaires dans vos agences immobilières.
Ouais. Je leur ai proposé, donc ils sont devenus partenaires, donc ils sont donc là.
Donc là, c'est un lien qui est plus que contractuel.
Voilà, c'est un lien qui est très très fort. Mais évidemment, qu'on m'a proposé d'autres chaînes et que je suis resté parce que pour moi, il n'y avait pas de question de partir. Quand tout va bien, on va pas tenter le diable.
Merci beaucoup Catherine Rambert d'être venue à ce micro. Merci Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour.
Vous adorez le rappeur Booba.
Oui, parce qu'il est très distrayant, il se bat, il clash des gens, il est moins dans la sérénité que Lance Armstrong la fois où son médecin l'avait piqué 30 fois au lieu de 29. Mais cette fois, c'est pas drôle, il s'est fait cambrioler dimanche soir. 450 000 euros de butin, ce qui pour lui représente une montre. Le bracelet.
On en parle après les infos de midi.
La deuxième partie de la bande originale sur France Inter.
Oui, merci beaucoup.
Ouais, je comprends.
J'ai trouvé ça tellement pulpeux.
Tellement pulpeux.
Pulpeux, enfin oui. Bon.
Je ne sais pas si...
Pour moi non plus.
Allez, c'est une voix pulpeuse, donc...
C'est une voix pulpeuse. Là, c'est non pulpeux.
Okay. Ouais, voilà, bah,
tu peux faire la voix pulpeuse.
Quand ouais, on s'enfonce, on c'est... continue de s'enfoncer en général. Hein, mais
Alors ça, ça restera attention, dans les annales. Ouais, enfin, je veux voilà. dire, retour de l'information toute l'après-midi avec Laetitia Gaillé et à 13h, ça sera le journal de...
Bruno Duvic.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Cato, vous avez Agnès sur Stel, Daniel Morin,
bravo Agnès,
Tanguy Passio, Albert Algou et notre invité Stéphane Plaza. Bravo. L'amour est dans le pré avec votre copine Karine Lemarchand pour ouvrir cette série de bande dessinée, cette série de sketch. L'idée étant, vous voulez relooker, vous occuper de la campagne, mais en fait c'est une catastrophe pour la campagne. Ce
oui,
fait.
Oui, mais souvent, c'est une vraie catastrophe.
Pour comment ça souvent c'est une catastrophe.
Moi, je suis pas encore un homme de la campagne. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne suis pas doué de mes mains. J'ai vraiment deux mains gauches, et c'est vrai que je les aide pas dans cette BD un peu à la campagne.
Ouais. Deux mains gauches, plus de talons dedans. Commence à tomber en tête. Hein,
la voyante l'a dit. Hein.
Bah, ouais, c'est pour bien
dire. Alors, expliquez-nous le principe du home staging.
Elle l'a tellement bien expliqué. Bah, c'est rangé, épuré, désencombré.
Vous rangez les cochons, les poules et les lapins aussi.
Voilà, dans un HLM.
Une petite pièce, une fonction. Donc on est pur, on vide, on regarde le volume.
C'est de quoi on est pur? On jette.
On est pur, on trie, on jette.
On donne.
En fait, le home staging, c'est embellir la mariée. Ça veut dire que c'est créer un coup de cœur dans une maison en redonnant du volume, en redonnant de la lumière, que ça sente bon, que ça soit propre, ce qui paraît évident mais qui n'est pas toujours le cas dans tous les appartements.
Quel est le plus gros problème que vous rencontriez quand vous visitez, quand vous voyez une
Il m'est arrivé de ranger un appartement ou de refaire un lit où on se pense qu'il y avait eu une bonne fête la veille. Hein, où, vous voyez,
je ne parlais pas de ça.
Non, mais par exemple...
Je dis que la notion dont vous parlez, c'est-à-dire une espèce de cumul d'un joyeux bordel qu'on appelle la vie, ne met pas en valeur l'appartement.
Si c'est un peu de vie, ça va, parce qu'on se dit tiens c'est un appartement vivant. Mais s'il y a trop de vie, trop de vaisselle, trop de choses dans la salle de bain,
ça assombrit, ça obscurcit.
En tout cas, ça donne déjà pas envie d'aller visiter ces choses-là.
Et pardon, à l'inverse, quand c'est trop dépouillé, quand il y a rien,
oui, c'est un peu de vie, c'est bien. Ouais. Mais trop, voilà, que ça soit un peu de jouets, un peu de choses dans les appartements, c'est bien. Mais quand c'est trop le bordel, qu'il y a des fringues un peu partout, qu'on peut pas mettre un pied devant l'autre, en tout cas on voit pas vraiment le volume, on regarde pas vraiment l'appartement, on regarde plus ce qui s'est passé la veille, on commente, mais on voit pas la beauté de l'appartement.
Donc vous conseillez du coup à ses clients d'investir un petit budget, c'est ça,
pour... de femme de ménage ou d'homme de ménage, en tout cas pour ranger un petit peu quand j'arrive.
Non, il paraît qu'il y a des métiers, mais je sais pas comment ça s'appelle, de gens qui viennent trier.
Oui, alors c'est même des thérapies, ça fait
trier
beaucoup de bien.
Et ranger.
Ça s'appelle des huissiers. Mais...
Non, mais tu as raison.
Ça s'appelle comment ça, Stéphane, des gens qui trient et qui rangent les
maisons. Je pensais que c'était des hommes de ménage.
En fait, il y a même des conférences en ligne sur Internet, vous trouvez ça, où on vous explique comment bien tenir votre maison. Non, mais au-delà de bien la tenir, c'est de faire des choix, de jeter des choses. Ça veut dire beaucoup de choses sur ta psyché, en fait. Qui tu es, comment tu te positionnes dans la vie.
Il y en a qui ne savent pas jeter.
Ouais.
Alors oui, c'est vrai qu'on dit...
On dit
en général même de trier ou d'avoir des papiers qui sont rangés. C'est, pour la tête, c'est mieux. Pour prendre des bonnes décisions, c'est mieux. Parce que tout est coordonné dans son appartement. Ça, c'est vrai. Mais moi, je leur demande même pas ça. Qu'ils foutent les affaires dans leur placard, quoi. Je veux dire, qu'ils les laissent pas en dehors du dressing, qu'ils rangent leurs papiers dans leur bureau.
Non, mais ça, c'est caché. C'est cacher la misère. On peut ouvrir 2-3 placards et
oui,
c'est
mais
bien.
Oui, mais c'est leur papier à eux. Donc tous les papiers partent en général quand on déménage.
Vous, c'est que l'apparence. Non. Là, elle parlait de quelque chose de plus profond et de plus.
Non, mais pour
utile.
La tête,
de
plus pour structuré. Pour la tête, c'est bon. Et on dit aussi que pour la lumière, quand elle rentre dans un appartement, la lumière du jour, c'est aussi bon pour le moral et pour la tête d'un être humain.
Et j'imagine que ça arrive que les personnes n'ont plus envie de vendre une fois qu'elles ont un peu réagencé leur maison.
Ah ouais, c'est marrant.
Alors, dans les.
Une fois que c'est bien présenté, que c'est bien peint.
Finalement, je l'aime bien cette baraque.
Alors dans l'émission, en tout cas, normalement, ils sont déjà engagés autre part. Ouais. Donc, il faut qu'ils vendent une des deux. Donc, en général, ils gardent quand même la nouvelle qu'ils ont achetée.
Stéphane Plaza est notre invité jusqu'à 12h30. On parle d'appartement. Et là, on va encore parler d'appartement qui a été visité, mais d'une autre manière. Voici Tanguy Passiro. Tanguy Booba s'est fait cambrioler.
Oui, Booba, c'est ce rappeur que le grand public a découvert cet été à l'occasion de l'organisation par l'aéroport d'Orly du premier combat de free fight français. Il avait tenté de trucider un autre rappeur, Caris, en plein duty free en tapant dessus avec un flacon de terre d'Hermès. Le directeur de Sephora avait déclaré enfin une baston qui a de la gueule. Plein de gens adorent Booba. Il a 3,2 millions d'abonnés sur Instagram, soit 3,2 millions de plus que Yannick Jadot des Verts, puisque lui est le seul à avoir un nombre d'abonnés négatif moins 126. Se moquer de Booba est donc risqué parce que dans la minute, on peut voir sa page Facebook saturée de commentaires comme « Va crever, sale tarba » ou « Je suis réellement outré par votre chronique ». Ce à quoi d'autres auront répondu « Tu veux dire quoi là, gros ?» Alors la personne écrira « Non, je voulais dire qu'il aille se faire ken par un pingouin, ce bolos ». Et les autres répondront « Ah ouais, ok ». Mais les menaces, j'en ai rien à faire parce que je suis un rebelle, je bouscule l'ordre établi. Mais moi, je peux dire « Oh, chiotte Macron !» Enfin non, ça en fait, tout le monde le pense. « Oh, chiotte Édouard Philippe !» Enfin non, c'est pareil. « Oh, chiotte Agnès Buzyn !» Non, enfin non, les gens savent pas qui c'est. Bon, bref, je suis un rebelle. Et en plus, je vais pas me moquer parce que Booba, dimanche soir, s'est fait cambrioler. Et que c'est une expérience traumatisante. On a l'impression que c'est à nous qu'on touche. D'où le fait que moi, je laisse toujours ma porte d'entrée grande ouverte avec écrit « Venez ». Alors les fêtes se sont déroulées avant-hier soir entre 20h et 22h30. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont rien à foutre ni du JT ni du film du dimanche qui ont fait le coup. Les taux se resserrent. Booba n'était pas là. Au même moment, il dédicaçait son livre à Paris. Édition limitée, le bouquin vaut 300 euros. Si Guillaume Musso faisait ça, aujourd'hui, il serait plus riche que Bruno Le Maire s'il créait une taxe sur les gens qui utilisent l'expression « au jour d'aujourd'hui ». Toujours se renseigner avant de faire un cambriolage sur l'emploi du temps du cambriolé. Par exemple, nous, c'est entre 11h et 12h30 qu'il faut nous dépouiller. Hein, d'ailleurs, j'ai pas envie de l'être moi, donc voici l'adresse de Daniel Morin. Il est au 15 rue des...
Non.
N'y allez pas, n'y allez pas. Je plaisante, ça ne vaut pas le coup. Tout ce qu'il y a à prendre, c'est une collection de doudounes sans manches et un vieux rasoir sans lame. Donc, les types s'introduisent chez Booba, à Boulogne, dans le 92, s'attardent peu sur l'appartement en lui-même, hein, la hauteur sous plafond, ils s'en tapent, ce qui permet de dire que Stéphane Plaza n'est pas dans le coup. Et là, ils se servent. Ils sont arrivés trop tard à l'Apple Store de Bordeaux samedi lors de l'opération Porte éclatée. C'est comme l'opération Porte ouverte, mais avec une masse. Et repartent avec 450 000 euros de butin. C'est là que c'est malin de cibler Booba plutôt que Mathieu Ricard, le moine bouddhiste. Parce que chez lui, au max, il y a trois bâtons d'encens et une robe de bure froissée qui sent la transpi.
Alors, concrètement, qu'ont-ils volé à Booba ?
Eh bien, des montres, car il en est friand. Il a notamment une Rolex Datejust, version or pavé de diamant. Elle coûte 100 000 euros. Ce qui est totalement con parce qu'on ne gagne même pas une minute par rapport à un porteur de montre Swatch. Il a aussi, selon lepoint.fr, le site des gens qui adorent les points, une quorum ornée de 1048 diamants. Il est très bijou. Rachida Dati à côté, c'est Leonarda. Il pourrait se paxer avec Caroline Diamant juste à cause de son nom. Et cette quorum vaut 350 000 euros. C'est-à-dire que comparé à Booba, Julien Drey, là, c'était un gueux de base avec au poignet une breloque de 100 dents. On a donc volé à Booba des montres, des bijoux, des lunettes de soleil, chaque élément coûtant à peu près 50 000 euros. Lui, s'il ouvre une huître et il y a 10 perles dedans, il dit c'est quoi cette merde, la met à la poubelle et appelle le meurtre pour voir où en est la fabrication de son 4x4 composé de 46 000 saphirs avec pare-buffle en peau de dodo, animal qui a disparu en 1681. Après, la question qui se pose est, qui est assez malade pour cambrioler Booba ? Le type fait 1m92 pour 110 kilos, dont 110 de muscles. S'il était rentré plus tôt, les mecs terminaient en sushi. Non mais moi, je suis cambrioleur, je vise Laurent Dutch, qui est tout frêle, ou Gérard Larcher, qui dort, ou Tonton David, qui n'existe plus. Mais pas Booba. Il vaut mieux taper les 5 euros que Philippe Poutou gardait dans une boîte à chaussures pour acheter un poster de Karl Marx, et s'il rentre, lui dire, écoute frérot, moi aussi je suis de gauche, le partage du capital, tu connais, que de prendre deux montres de luxe et risquer sa vie. Et il peut s'en prendre qu'à lui-même, Booba. Il passe son temps à exhiber ce qu'il a. C'est un type, même quand vous n'avez rien à faire de la journée, qui se met à vous crier, tu veux savoir l'heure qu'il est? Juste pour sortir sa montre. Donc il provoque. Je suis désolé, mais les Kids United, vous regardez un de leurs clips, vous n'allez pas les cambrioler après. Vous savez qu'au mieux, vous allez piquer un bas de jogging taille 7 ans avec une tache de pipi. Zaz, Zaz, vous la matez. Vous vous dites pas, la vache, il faut que je sache où elle habite parce que ce bracelet en Scooby-Doo qu'elle portait à son concert samedi, il est pour moi. Non, ce sont des gens simples. Michel Houellebecq s'y donne son adresse, personne ne vient. Parce que si son intérieur lui ressemble, ça doit être foutraque quand il cherche ses cotons-tiges lors de sa toilette annuelle. Je pense qu'en premier, il regarde dans le four de la cuisine. Mais Booba, comme bien des rappeurs, est dans la démonstration. Il faut que tout soit gros. Les biceps, les montres, les voitures. Si tout le monde était rappeur, il faudrait 17 planètes comme la Terre pour qu'on tienne tous dessus. Donc, le cambriolage, ce n'est ni de la housse, il était au JT à cette heure-là,
ni on l'a dit Stéphane Plaza, c'est peut-être Caris. Je dis ça parce que j'adore la boxe et que j'ai pas Canal pour voir les matchs, donc j'attends le prochain combat.
Merci Tony Bassereau. Oh, bravo.
C'est fort, hein.
Ah oui, fort, fort. Avant de reparler de la bande dessinée avec Stéphane Plaza,
je voulais...
Qui coûte
pas 300 euros, même.
Pardon ?
Ça coûte pas 300 euros.
La bande dessinée ?
Non, non.
Non, mais le livre, je pense, c'est de, bon, une édition limitée, et puis il doit y avoir, je crois qu'il y a des textes de chansons.
Moi aussi, il y a des textes dedans. Venez l'acheter à 11 euros.
Donc, je voulais vous parler de théâtre. C'est au Théâtre de la Cité Internationale, à Paris, dans le 14e arrondissement. Ça s'appelle Rituel 4, le grand débat. Émilie Rousset et Louise Aymon sont sur scène. C'est,
Elles
écrivent et elles mettent en scène. Et c'est avec Emmanuel Lafont, Laurent Pointe-Renaud et Leïla Kadour-Boudadi, la voix. Et ça parle un tout petit peu politique.
C'est ça, c'est en fait les face-à-face des deuxième tours, des second tours des présidentielles depuis 43 ans. Les deux metteuses en scène ont choisi des extraits et elles les font jouer par ces deux comédiens que j'adore, Emmanuel Lafont et Laurent Pointe-Renaud. Et en fait, il y a un truc assez troublant. J'y suis allée hier soir pour la première. C'est toute la semaine dans le cadre du Festival d'automne. Et en réentendant ces affrontements, on parle de combats, ben là aussi c'était des combats politiques,
clairement,
qui font écho avec ce qu'on vit aujourd'hui. On a l'impression que ces combats d'il y a 40 ans sont encore actuels et ça ressurgit avec la crise des Gilets jaunes notamment. Et c'est vraiment un très très beau spectacle. Moi je ne fais que prêter ma voix. Et
mais c'est
deux.
Mais c'est une voix pulpeuse. Hein.
Non, mais alors moi je joue la journaliste à l'époque de l'ORTF et qui explique que. Imaginez les duels télévisés, c'est une sorte de grand moment télévisuel qui ont été instaurés avec des règles très précises, avec un consensus sur la température, la taille de la table, sur les plans, le fait que on ne puisse pas la taille de la table, j'ai dit. Je te connais. Le fait qu'on n'ait pas de contre-champ, c'est-à-dire que on filme le candidat qui parle et donc on voit la nuance avec toutes ces années d'évolution entre un Mitterrand-Chirac avec le fameux Monsieur le Premier ministre qu'il y a bien entendu dans la pièce, et on voit aussi le débat avec Marine Le Pen récemment et Emmanuel Macron. Donc on revisite toute l'histoire de la politique et vraiment c'est une heure sur scène, les deux comédiens sont épatants.
C'est jusqu'au 15 décembre qu'il faut se dépêcher. Voilà, lundi, mardi, vendredi à 21h, jeudi, samedi à 19h, repos demain mercredi, la salle Coupole, je redonne l'adresse, 17 boulevard Jourdan, Paris 14e.
Cité internationale, ouais.
Stéphane Plaza, la scène justement, ça vous démange de remonter sur scène, de jouer, d'être au théâtre ?
En tout cas, je recommence des lectures et c'est prévu pour 2019, voire janvier 2020. Alors pour l'instant, je ne connais pas quelle pièce, j'ai pas choisi la pièce.
Mais est-ce que vous avez envie d'être auteur ? Parce que ce soit dans cette bande dessinée ou que ce soit au théâtre, là vous êtes l'interprète des autres, alors qu'à la télévision, il n'y a pas vraiment d'auteur. Vous êtes naturel et vous vous laissez porter parce que vous avez envie de dire. Personne ne vous dicte ce que vous avez à dire.
Non, mais alors faire 1h30 d'impro, c'est compliqué.
Écrire,
c'est un vrai talent. Que je ne possède pas.
Qui vous l'a dit ?
En tout cas, on ne peut pas tout avoir déjà et je sais comment j'écris. Mais en tout cas, non, j'ai fait la première partie d'Éric Antoine récemment avec Jean-Philippe Janssen où on a écrit à deux. Donc c'est un premier jet en tout cas et vraiment, j'ai pris plaisir à écrire. Mais c'est vrai que pour l'instant, je préfère interpréter que d'écrire. Après, c'est déjà très dur d'interpréter, donc on verra bien l'avenir. Mais c'est pas évident de se retrouver devant la page blanche, de se dire tiens, il faut écrire, quelle idée on va mettre ? Est-ce que c'est drôle, pas drôle ? J'ai peut-être pas assez de recul. Et c'est vrai que je préfère, en tout cas, quand j'écris, faire rire, même si quand je joue, je peux être autre chose que faire rire.
Justement, là, interpréter, ça serait plutôt dans quel genre ?
En tout cas, je veux toujours être dans quelque chose de drôle, même si moi je n'ai pas forcément le rôle comique, ce qui était le cas dans J'ai perdu Albert, où j'ai donné une autre palette, parce que j'ai aussi je pense qu'on a tous des failles, et en tout cas moi j'ai des failles à l'intérieur, même si je suis un bout en train, même si j'ai quand même quelques faiblesses, et j'ai des moments de tristesse aussi.
À propos de failles, on voici une grosse, Daniel Morin.
Non, les amis, arrêtez.
C'est bon quand même.
Arrêtez, c'est gênant. C'est surtout gênant. Arrêtez. Bon, d'accord. Ok, merci. Je sais, c'est la Saint-Daniel aujourd'hui. C'est vrai que c'est génial, mais c'est pas non plus
le 14
juillet. Non. Mais non, je vous en prie, pas de cadeaux hors de prix, pas de gestes fous. Agnès, ravis-toi. Non, non, c'est gentil, mais garde ta dignité. Oh, Stéphane, vous êtes mis tout nu aussi. Oh, oui, quel acteur. Leïla, n'insiste pas. Non. Je ne passerai pas la nuit avec ton fiancé. Non, non, j'apprécie le cadeau, mais ne fais pas ça. Surtout après, il vaudra plus revenir vers toi. C'est Nagui, mais fallait
quoi,
pas, Nagui.
Cool.
Oh, mais il y a quoi dans cette enveloppe? Me dites pas que c'est un chèque avec une énorme somme. Ben non, c'est pas un chèque, c'est une photo de vous. Non, sérieux, Nagui, fallait pas, hein, vraiment pas. Mais ça me touche énormément, hein, ce geste à mi-chemin entre la générosité et la mégalomanie. Allez, on passe à autre chose, ça va devenir trop embarrassant, je vais me sentir gêné si on en fait trop. Oh, quand même, bande de déglingos que vous êtes. Hein. Non, surtout que dans l'actu d'aujourd'hui, il y a quelque chose d'aussi important que ma fête.
C'est bien sûr les 80 ans du plus grand chanteur pied noir du monde. Bon anniversaire, Enrico Macias. Enrico, c'est la vie, c'est la générosité, c'est l'amour.
Merci François. Non, je voulais parler en fait de l'intervention d'Emmanuel Macron, bien sûr, hier soir à la télé. Une intervention qui, malheureusement, n'a pas convaincu l'ensemble des Gilets jaunes. Des mesures, certes, mais pas suffisantes pour les mécontents. Il aurait manqué de générosité. Mais apparemment...
J'ai de l'amour.
Enrico, lui, il est super généreux.
Oui,
des
d'accord.
artistes comme lui, on n'en fait plus. Aujourd'hui, c'est chacun pour sa gueule et basta. Non mais écoutez-moi ça, c'est le partage, la transmission, le don de soi, c'est la vie. Bon anniversaire, Enrico.
Merci François, mais là ça va, c'est bon, ça a rallumé Nagui. C'est bon, mais je suis content pour Enrico Macias, mais on va pas faire la matinée là-dessus non plus.
Dommage.
Avec vos bêtises, j'ai même pas le temps de parler de notre invité.
C'est qui?
C'est Stéphane Plaza.
Oh mon Dieu, qu'il est moche.
Non, non, là vous regardez Nagui, c'est Nagui que vous regardez, Stéphane Plaza il est là à droite.
Ah bon, il fait quoi dans la vie?
Attention. C'est le plus grand agent immobilier du monde. Et là, je vois pas comment vous allez enchaîner avec du Enrico Macias, petit malin.
Mais si, il suffit de demander.
Ma maison.
C'est tout pour moi. Ouais. Salut.
Pour moi aussi, c'est tout, les amis. Allez, à demain.
Avec Nagui.
Stéphane Plaza, profession, agent immobilier, l'amour est dans le pré. Vous ne signez pas les scénarii, les histoires, les sketchs qui sont de Dorache et le dessin de Quaco, mais vous les avez influencés en disant « voilà les thèmes, voilà les pistes sur lesquelles j'ai envie d'aller ». Ça s'appuie aussi sur des situations réelles,
oui.
Sur du vécu.
Sur du vécu, alors pas forcément par moi, mais sur du vécu, oui, ça part que sur du vécu, oui.
Pas forcément, mais ça toujours dans le monde immobilier.
C'est... Toujours dans le monde immobilier. Il y a beaucoup d'agents, je connais beaucoup d'agents, donc c'est la vie de tous les jours. Donc forcément, c'est des hommes comme tout le monde, ces agents immobiliers. Donc effectivement, oui, ça part toujours d'un fait réel.
La météo joue pour beaucoup dans votre métier, c'est-à-dire que j'imagine que lorsqu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on est dans un appartement qui est mécaniquement plus sombre.
Le
petit rayon de soleil pour
quand
visiter.
Quand moi je fais des visites, ouais. Je regarde la météo et il m'est arrivé de décaler mes jours de visite en disant que je n'avais pas les clés parce que le lendemain il faisait beaucoup plus beau. Et que, non mais c'est vrai, évidemment que dès qu'il fait beau, l'appartement est plus sympa, la lumière rentre dans un appartement, dès qu'il pleut, tout est gris, déjà on n'a pas envie de sortir, on se prend l'eau dès qu'on sort de sa voiture, on se dit qu'est-ce qu'on va acheter, non. Donc moi ça m'est arrivé de décaler, oui.
Les envies, donc théâtre, à nouveau le cinéma, vous y avez goûté.
Le cinéma,
comment vous avez vécu cette expérience déjà?
Plutôt très bien, je me suis retiré 4 mois donc, pour vraiment faire que ça, ça s'est plutôt très bien passé, donc il y a des choses qui se préparent, ou en tout cas on parle de certaines choses, on verra si ça se concrétise ou si j'ai envie d'y aller. Pour l'instant, je me consacre vraiment sur l'immobilier et le théâtre en 2020.
C'était Didier Van Kovelaert et j'ai perdu Albert.
C'est ça.
On avait parlé du livre et on l'avait reçu pour en parler. Et là, vous étiez Einstein. Einstein.
Et dans un rôle, en tout cas, j'étais squatté par Einstein. Hein, dans un rôle d'apiculteur, garçon de café, qui était plutôt sombre, qui était plutôt loser.
Et apiculteur, parce que Einstein avait dit quand la dernière abeille mourra, il restera 2 années pour notre humanité.
C'est ça, ouais. Donc c'est plutôt ça s'est plutôt très bien passé, puis j'ai eu la chance d'être avec Josiane Balasco et Bernard Lecoq et Julie Ferrier. En tout cas, c'est un bon pied dedans. Après on verra ce qui va se passer.
Mais quelles sont les envies ?
Moi, mes envies, c'est d'être en bonne santé, non, mais c'est vrai, d'être en bonne santé, de vivre des choses à fond.
Il me reste quelques mois.
Et apparemment, il me reste moins d'un an, donc il va falloir que j'aille chez le notaire. Mais
tu verras comme ta vanne sera pas du tout drôle dans quelques temps.
Oui, tu verras. Et là, tout le monde.
Ça m'a fait la même avec Aznavour. Hein.
Salaud.
Il était un peu plus âgé quand même.
Merci, Stéphane. T'imagines ce que je vis, moi, au quotidien avec un truc comme ça.
Non, mais j'aimerais avoir, en tout cas, des rôles un peu plus sombres m'intéressent.
Ah, décalé, ne pas avoir toujours...
Faire un agent immobile ne m'intéresse pas. Le comique, en tout cas au théâtre et le boulevard, je trouve ça super sympa. Au cinéma et à la télé, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est peut-être là la grande différence qu'il y a entre vous et Michel Simès, où Michel dit, je veux bien être comédien, mais en jouant des rôles autour de ce crédit que j'ai en étant docteur, en jouant le docteur, légiste. En jouant un médecin légiste, et ainsi de suite, ou faire des enquêtes policières, oui, mais en tant que médecin légiste. Vous, au contraire, vous voulez vous démarquer un peu de l'étiquette agent immobilier.
D'être agent immobilier, non, c'est mon métier tous les jours. Moi, j'ai fait 7 ans de conservatoire avant d'arriver à la télé. Ce qui m'intéresse, c'est une nouvelle expérience, c'est de vivre autre chose et c'est de faire autre chose que mon métier. En tout cas, c'est de vraiment aller chercher au fond des choses qui sont en moi pour essayer de les sortir.
Et M6 n'aurait pas envie d'exploiter un peu votre image à travers un téléfilm ou une série de téléfilms, parce qu'ils ont pu proposer ça à d'autres animateurs phares de la chaîne il y a quelques temps.
Ou adapter la bande dessinée en sketch aussi.
Oui. En tout cas, on fait un programme court, ouais, tu as raison.
Alors, en tout cas, on a déjà fait 3 téléfilms avec M6 qui s'appelait L'homme de sa situation, qui étaient plutôt des choses assez drôles, en tout cas un peu avec des gars qui arrivaient à répétition. Dans les 2 ou 3 ans, il doit avoir un téléfilm, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, c'est marqué noir sur blanc, on va dire.
Avant ça, il y aura une émission en access, vous avez annoncé, mélange de déco et d'immobilier.
Plus de déco, en fait, c'est plutôt un agent immobilier qui va conseiller de ne pas déménager. Donc, vous voyez que je suis un peu dans les contresens et c'est ce qui m'amuse d'être décalé, mais c'est plutôt que de la déco et en tout cas pour pas que les gens déménagent.
Et ça s'appelait ?
Je ne sais pas encore.
Ah, c'est un bon titre, ça.
Non, je ne sais pas parce que je vais commencer le tournage. Là, c'est une vraie info. Je vais commencer le tournage dès demain. Encore, c'est pas tourné. Et je crois que le titre n'est pas arrêté.
Mais comment vous pouvez tourner une émission sans avoir le titre ?
Ben, je sais pas, parce que le titre n'est pas déposé ou alors ils me l'ont pas donné. D'accord. Non, mais c'est pas une blague.
Et c'est à l'antenne en janvier.
Non, c'est à l'antenne, pas avant mars, parce qu'on commence à tourner demain. Donc ça va pas mars ou avril. Donc là, ils auront le titre, je pense, quand même. J'espère pour eux.
Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, désolé pour tous nos auditeurs précaires, tous les gilets jaunes qui se sont sentis oubliés, méprisés ce matin par le multipropriétaire Nagui. Alors, comment vous dire, il a rien contre vous, les prolos, c'est juste qu'il vous connaît pas. Ah, le showbiz.
De quoi tu parles ?
Désolé pour les enfants de Nagui, justement, qui ont découvert qu'ils avaient été probablement achetés et élevés par un usurpateur mort à l'âge de 35 ans. Ça fait donc 35 ans, en gros. Alors, pour le coup, nous, on s'en doutait un peu. Hein. On avait quelques éléments, quelques indices. Et désolé pour tous les cons qui nous écoutent et qui ont le mauvais signe zodiacal, qui auraient aimé bosser pour Stéphane Plaza. Eh ben, pas de bol. Je veux pas de vous. Ah, c'est pas grave, les gars. Ici, on a toujours de la place pour les champions.
Ça s'appelle L'amour est dans le pré, publié aux éditions Jungle. Stéphane Plaza, merci Stéphane d'avoir été notre invité.
Merci à vous,
merci,
à très bientôt.
Merci mille fois. Demain, Jean-Michel Jarre sera notre invité en live. LP sera là aussi. Ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour les amis.
Salut.
L'amour est dans le pré ?
Oui, avec un petit chapeau sur le
dos. Voyons, notre vraie richesse, c'est la nature. Les arbres sont nos premiers portefeuilles.
Très bien.
Oui. Non,
ah oui,
portefeuille.
Feuille. Ah ok. Portefeuille.
Oh là là.
Wow.
Il met du temps à comprendre. Hein.
Ouais. Oh là je sais pas.
Non,
je sais
l'amour
pas.
Est dans le pré, c'est-à-dire qu'on s'échange.
Ah oui, c'est pas mal.
Excusez-moi, il faut que j'y aille.
Leïla porte du crédit, d'accord.
Ah oui, bisous.
Bisous ma Leïla, bisous les amis, salut, à demain.